artistes, musiciens et musiciennes au Canada, on vous invite à faire rayonner votre musique. Inscrivez-vous dès maintenant à la 17e édition des Silidor de la musique du monde. Cette vitrine unique est votre chance de vous faire découvrir du public et de remporter de nombreux prix. Faites vite, vous avez jusqu'au 11 décembre pour envoyer votre candidature. Toutes les infos sur www.silidor.com.
Hey, salut, c'est Gab Bouchard, vous êtes à l'écoute de choc.ca.
Bonjour, bonsoir, bienvenue à cette toute nouvelle émission des Amazones! Épisode 233. Avant de parler du thème, j'aimerais saluer la personne qui m'accompagne en studio, Tamara Rousseau. Comment ça va, Tamara?
Ça va bien, toi?
Ça va pas pire, ça va pas pire. Écoute, ça a été toute une fin de semaine de lutte, je vais te le dire, parce que je pouvais rien faire dans la vie à part comme me culpabiliser parce qu'il fallait que je fasse mes travaux d'école, puis arriver devant mes travaux d'école puis faire comme... et m'arracher la peau du visage, mais j'ai au moins eu de la lutte.
Ben, au moins.
Hey, CM Punk est revenu à WWE, peux-tu croire?
Ouh!
Ah non, mais pour vrai, là, c'est toute une histoire. Pour te faire une histoire courte, CM Punk est parti.
OK.
Il a claqué la porte de la WWE, on pensait qu'il ne retravaillerait plus jamais en lutte professionnelle. Il est retourné à la AEW.
Ouh!
Il s'est battu au poing avec des gens. Il a failli frapper... le directeur de la compagnie dans un accident de pendant qu'il se battait avec quelqu'un d'autre. Et il a été crissé à la porte.
Oh là là!
Alors qu'il y avait 80 000 personnes dans l'assistance. Un affaire de fou! Mais voilà qu'il est revenu samedi à la WWE. Qui peut craindre? Mais il a quand même regardé la caméra après son élocution hier soir, donc lundi au moment d'enregistrer, c'était Raw. Et il a fini son élocution en disant « Je suis pas ici pour me faire des amis, je suis ici pour me faire du cash! » Fait que...
Mérite d'être honnête.
Ben, écoute, ça a l'air que c'était la ligne des coms aussi. Ah. Donc, on lui a dit qu'il était pas là pour se chicaner, il était là pour l'argent.
Bon,
okay. Bon, mais pourquoi pas? Ah! Toi, c'était ta fête?
Oui!
T'as eu quel âge, Tamara?
J'ai eu 32 ans.
32 ans?
Oui, grande fille.
T'as-tu hâte à l'année prochaine pour que je te fasse ma fameuse blague que je dis tout le temps à tout le monde?
C'est-tu la blague de « t'as l'âge du Christ quand il est mort»?
Mais non.
Ah.
Mais non, mais c'est l'âge de majorité chez les Hobbits.
Ah! Écoute, je vais sûrement l'oublier d'ici là, comme je vais mettre ça très loin.
Ah, c'est correct. Puis, t'as 363 jours, genre, pour oublier.
Ish, ouais.
Ben aujourd'hui, Tamara, on parle d'un sujet. En fait, on est comme d'actualité, mais pas d'actualité en même temps.
Oui, exactement.
Parce que on parle de l'univers de Scott Pilgrim, qui est un univers de BD, qui est aussi devenu un film culte et qui est aussi devenu un jeu vidéo qui a marqué énormément les esprits de notre génération. Là, je pense justement qui était comme au secondaire cégep dans les années 2010. Là, c'est vraiment, je crois, en 2010 quand le film est sorti. Et il y a une série télé Netflix qui est sortie il y a à peu près une dizaine de jours au moment où on se parle.
Exactement.
Mais on l'a pas vu.
Et
on
non.
Peut pas vous spoiler sur la série, mais on peut parler du film. Puis je suis quand même contente qu'on parle du film parce que je sais que c'est une œuvre que tu apprécies beaucoup.
Exactement.
Puis, si je me trompe pas, tes cheveux, c'est un peu un hommage à Ramona Flowers, là.
C'est pas un hommage à Ramona Flowers. J'aime vraiment juste ça, avoir les cheveux roses. Mais, fun fact, mon premier Comic-Con, mon premier cosplay, c'était Roxy, l'ex de Ramona. Puis, ma meilleure amie faisait Ramona Flowers. Fait que c'est mon entrée en matière aujourd'hui.
Je pensais que tu changeais de cheveux tout le temps à cause de... Justement, à cause de Ramona Flowers. Mais il y a une Amazone qui est venue souvent, Julie. Elle, c'est exactement pour ça qu'elle change tout le temps de couleur de cheveux. C'est son hommage à Ramona Flowers.
J'aime vraiment trop pas perdre mes cheveux pour les changer à tout bout de champ. Mais non, c'est sûr que ça fait plaisir quand les gens sont comme « Ah, mon exemple dans le monde des geeks, c'est Ramona Flowers. Fait que j'ai beaucoup de commentaires là-dessus. Mais à la base, c'était pas ça. C'est juste, je trouve ça plate d'avoir des cheveux bruns.
Voilà. C'est-tu à cause de Laura Lampus d'abord que t'as les cheveux roses?
Babe, j'ai les cheveux roses depuis genre 8 ans.
Ah, je sais.
Non. Mais je les ai re-rues roses à cause de Laura Lampus parce que c'est un costume d'Halloween puis je les ai gardés depuis. Ça fait quoi, 4 ans? 5 ans que j'ai les roses?
Ben voilà, je suis pas dans les patates tant que ça, là. Pourquoi t'aimes cette œuvre-là?
Scott Pilgrim. Je me souviens qu'on est allé le voir au cinéma en se disant qu'on n'avait pas vraiment d'attente. On était comme, OK, ben ça a de l'air le fun. Et de ressortir de là en faisant, wow, c'était vraiment insane. Déjà là, la fée avait des cheveux de couleur. À l'époque, on n'avait pas encore des cheveux de couleur, on trouvait ça cool. la musique était géniale. Le montage est exceptionnel. Moi, en 2010, j'étais à ma deuxième année de cégep en cinéma. Fait que j'avais bien du fun, comme toutes les personnes qui commencent en cinéma, à over-analyser tout ce qui se passait. Puis une fois que j'ai appris qu'il y avait une BD avec ça, ben là, je suis tombée là-dedans aussi. Fait que, tu sais, j'aime beaucoup les œuvres qui sont... voyons, c'est quoi le mot que je cherche? Pas pluridisciplinaire, là, mais comme qui ont plusieurs supports différents pour la continuité de l'univers.
Multiplateforme.
Multiplateforme. J'aime vraiment, vraiment ça. Fait que c'est ça. Je suis vraiment tombée là-dedans parce que je trouvais ça profondément cool.
Puis là, moi aussi, je vais réfléchir au bon mot qu'on veut dire depuis tantôt. Mais il y a un mot. Mais c'est pas multiplateforme, c'est pas pluridisciplinaire. Mais je suis sûr qu'il y a des gens qui nous écoutent puis qui nous le crient, là. Ça va m'en revenir.
Vous le mettrez dans les commentaires, au pire.
Pour la petite histoire, parce qu'il y a peut-être des gens qui ne connaissent pas beaucoup Scott Pilgrim ou qui ont entendu parler ou qui se rappellent à peu près pas de l'histoire, mais qui ont vu le film peut-être à l'époque ou peu importe récemment. Mais Scott Pilgrim, c'était au départ, comme on le disait, une bande dessinée. Une bande dessinée qui était faite par l'auteur Brian Lee O'Malley, qui est très, très canadien.
Yeah! Canada!
C'est pour ça que dans une des BD, on a, à un moment donné, un peu à la manière d'un... Tu sais, il s'est inspiré un peu de l'univers des mangas aussi, là, la façon dont il y a une certaine... Je dis pas que c'est manga-esque comme série, mais il y a quelque chose, je trouve, au niveau de certains choix de plans, de certains choix de cases ou d'ouverture, d'éclatement des cases. Il y avait beaucoup de ça qui me faisait penser un peu à cet univers-là. C'est même écrit que, dans le fond, il s'est beaucoup inspiré qu'il voulait écrire un shonen style. Donc, on est très encore une fois, dans le manga, et qui se serait inspiré, là, je lis la page Wikipédia parce que je voulais me rappeler de son nom, mais c'était, je trouvais ça drôle parce que il s'est inspiré du style de dessin d'un livre qui s'appelle Even a Monkey Can Draw Manga.
J'ai aucune idée, quoi.
Donc, même un singe pourrait dessiner du manga, mais j'imagine que il y avait quand même un respect pour l'œuvre. On salue Marie-Hélène Racine-Lacroix, dis-je, qui se faisait dire beaucoup durant sa période, quand elle a fait son bac en bande dessinée, se dire « Toi, t'es une fille, tu vas vouloir faire du manga. » Mais non, c'est pas comme ça que ça marche. Mais tout ça pour dire qu'il a écrit cette série-là à partir de 2004 et il a terminé en 2010, en juillet 2010, la même année que la sortie, en fait, quelques mois à peine avant la sortie du film. On va parler un peu plus de justement cette adaptation-là puis comment ça s'est déroulé. Et ça comptait 6 tomes en noir et blanc qui ont été réédités entre 2012 et 2014 en couleur. Donc, vous pouvez les trouver actuellement en couleur, si vous le souhaitez. Moi, je les ai en noir et blanc à la maison, par exemple.
Moi aussi. Mais d'ailleurs, tu parles du noir et blanc. Moi, je trouve ça vraiment le fun que faut que tu le dises que ton héroïne principale, elle change de couleur de cheveux à toutes les semaines et demie. Parce qu'en regardant la BD, ben, tu peux pas le savoir.
Non, à part de comparer les couvertures qui étaient en couleur.
C'est ça, exactement.
Mais c'est ça, fait que là je parlais du style de manga, mais puis je disais il est très canadien parce que ça m'avait marqué quand je lisais la BD que à un moment donné t'as juste un des tomes qui s'ouvre puis c'est sur un IGA. T'as comme l'immense signe l'insigne de IGA et là on voit le plan de paysage et là on comprend qu'il est en train d'acheter de la bouffe.
C'est très canadien anglo aussi parce qu'il y a du hate sur Montréal, out of the blue. Todd, je pense, le numéro 3 de Ramona, il s'en va à Montréal pour ses études puis il y a du gros hate là-dessus. Donc comme Montréal, comme on s'en fout, c'est loin, c'est les francophones, arc. Fait que tu vois, c'est vraiment ancré dans la culture canadienne anglophone.
Ben là, je suis comme un peu curieuse parce que j'ai pas été faire la recherche, mais je me demande, il doit venir de... Parce que Mais tu vois, c'est drôle parce que ça a été released ça a été fait à Portland, en Oregon. En fait, ça a été édité par une maison d'édition de Portland, Oregon. Mais Brian Lee...
Je pense qu'il vient de Toronto.
Ça, c'est ça que je me suis dit. Ça sonne Toronto.
C'est il très Toronto.
Il est né à London, Ontario.
Oh.
Donc, le 21 février, en 1979, il a aujourd'hui 44 ans. Donc, on revient à l'œuvre originale donc, de Scott Pilgrim, qui était donc la série qui s'appelait Scott Pilgrim, qui comptait 6 tomes. Le film Scott Pilgrim vs. The World est inspiré du titre du deuxième opus de cette série de 6 tomes-là. Et dans le fond, ça raconte grosso modo la même histoire que le film, avec plusieurs différences, surtout lorsqu'on arrive dans les tomes, je trouve, là, du moins, là, dans les tomes, justement, 4, 5, très, très différents, 6, on se rapproche beaucoup, beaucoup du film. Même que je te dirais que j'ai l'impression que plan par plan, le film, la BD du premier tome puis du deuxième tome, c'est quasiment la même affaire. Quasiment. Ça met en scène donc plusieurs personnages super intéressants dans la BD et dans le film. Entre autres, donc Scott Pilgrim, qui est interprété par Michael Cera. Donc Michael Cera qui était la coqueluche de tout le monde à ce moment-là. On l'adorait à cause d'Arrested Development, puis de Superbad, qui moi est un de mes films préférés. C'est un de mes films préférés de type genre ado coming of age, là, je vais le dire comme ça. Je l'écoutais vraiment, vraiment souvent. Qui est un personnage donc qui joue dans un band avec, entre autres, Kim, avec Lucas. Lui, il est le joueur de guitare. Et Lucas chante et joue de la guitare aussi, je crois. Ou chante uniquement.
C'est pas Stephen, son nom? Stephen?
Lucas, c'est un nom.
Ouais, Lucas, c'est le evil ex-boyfriend. Je pense que c'est Stephen.
Hey, c'est pas Lucas qui est comme végétarien, vegan, ça se peut-tu?
Non, ça c'est Todd.
Ça fait trop longtemps.
Mais bref, Scott, il joue de la bass. Il chante et il joue de la guitare.
Et Kim joue de la batterie. Et Kim est l'ex de Scott. Parce que cette BD va tout tourner autour du fait qu'il va tomber en amour. En fait, il va commencer à fréquenter une jeune fille qui va... Parce que lui, je crois qu'il va... plus à l'école vraiment, en fait. Je pense qu'il drop out un peu où il va peut-être au collège, mais c'est très, très secondaire dans l'histoire. Mais il sort avec une fille qui est comme en secondaire 5, là, mettons, là, si on pouvait dire, ou genre l'équivalent de peut-être première année de cégep pour nous, mais comme qui est encore au high school. De mémoire, elle n'était pas encore... Elle n'était pas aux études post-secondaires.
Non, c'est comme... C'est pas le running gag, mais ce qu'on ramène souvent, c'est comme... Elle est jeune. C'est comme... Je pense que dans la BD, ça dit Scott Pilgrim d'être une collégienne. Il me semble que ça l'écrit même dans le film, là, comme un...
Oui, sous-titre, là. Exactement. Puis c'est ça, elle a comme... Je pense qu'elle est majeure, mais c'est comme un peu limite, un peu... Il y a des gens qui trouvent ça un peu creep, en fait, parce que comme elle est trop jeune. Je sais pas, ils ont quel âge, par exemple, là.
Je pense que Scott est supposé avoir, genre, 23 ans, puis Knives, elle doit avoir comme...
Il y a 23 ans au début du film et son anniversaire de 24 ans dans le cinquième tome.
C'est ça, c'est pas tant le fait qu'elle soit... c'est pas l'âge de Knives, c'est la différence d'âge au moment où ça l'arrive.
Exact.
C'est ça, comme elle est majeure, c'est pas une situation illégale, mais c'est quand même cringe que Scott, 23 ans, veuille dater la fille qui vient comme d'avoir 18.
C'est ça, exact. Qui est très, très, très amoureuse de lui, qui semble être dans une dynamique complètement basée sur le fait de l'idolâtrer beaucoup. Et lui, pendant ce temps-là, il va un peu faire la même chose, mais avec un personnage très cryptique et mystérieuse, qui est Ramona Flowers, une livreuse de colis par...
Amazon.
D'Amazon, une livreuse d'Amazon par...
Rollerblade.
Il va capoter, c'est vraiment le trope de la Pixies Girl, tu sais, comme littéralement, mais il va un peu se perdre là-dedans, il va être très gentil avec justement cette fille-là qui est pas capable de laisser parce qu'il est en amour avec une autre, mais qui va comme un peu tenir en haleine puis maintenir cette relation-là. Pendant ce temps-là, cette relation-là va prendre vraiment, vraiment beaucoup de place, mais il va finir par découvrir que malheureusement, Ramona vient avec un bagage qui est cette ex-petite amie
maléfique. Ouais.
J'ai utilisé petite amie parce qu'à l'audio, c'était non-genré parce qu'il y a de tout dans ce groupe.
Yes.
Et ils vont devoir affronter à la fois ça, mais aussi affronter parce que Chris Evans, je crois que c'est le gars qui est dans un band avec l'ex à Scott. Ça peut-tu?
Non, c'est Todd qui est dans le...
Hey, j'arrête pas de penser que Lucas,
c'est Superman qui est dans le band avec Lexa Scott. Parce que Luke Evans, c'est l'acteur de film full cool. C'est l'ex numéro 2.
C'est Lucas Lee.
Lucas Lee, oui. Le gars qui fait du skateboard.
Ouais, ah, c'est ça. Mais oui, c'est ça, exactement. Je pense qu'il fait un combat skateboard avec Scott. There's something avec le skateboard.
Il se bat, puis Scott, il sait que s'il met au défi de faire un grind sur la rampe, pas de bon sens, avec des curves, puis elle est vraiment long, puis elle est glacée. En plus, il est comme, je suis sûr que t'es pas capable de la faire. Puis comme, les filles regardent. Puis l'autre est comme, c'est sûr que je suis full bon. Puis, bien entendu, se pète la gueule solide avant la fin de la rampe.
Et voilà, et Scott va accompagner donc Ramona parce que il y a comme une affaire de comme il accepte pas que maintenant ils se sont comme un peu tous ligués contre lui, puis il accepte pas que Ramona se soit rematchée avec lui. Ce qui est comme pas expliqué, mettons, est-ce que eux autres ils en voulaient aux autres d'avoir sorti avec Ramona? C'est vraiment tout ligué contre Scott spécifiquement?
Non, c'est l'œuvre de l'ex numéro 7 Gideon qui est genre le evil mastermind que lui veut avoir Ramona. Qui a carrément une emprise sur elle, puis le moyen qu'il a trouvé pour faire ça. Je sais pas, je pense que c'est pas expliqué dans le film, puis je me souviens plus si ça allait dans la BD. Je sais pas qu'est-ce qu'il leur a dit aux autres comme personnes pour les convaincre. Peut-être que les gens aiment juste chercher le beef, mais les 6 autres ont décidé de gentiment participer à cette requête de Gideon et de venir affronter Scott.
Puis c'est vraiment, on parle ici quasiment d'une relation, t'sais, c'est très métaphorique, c'est très axé comme bande dessinée, c'est très, t'sais, justement, the final boss, on va beaucoup rechercher ce genre de d'iconographie-là, mais on parle d'énormément, je trouve, de situations de jeunes adultes qui arrivent dans le dating life, en fait, comme Ramona, dans le fond, c'est une relation toxique qui l'a probablement très, très marqué de violence psychologique qui a fait perdre beaucoup d'estime en elle, ce qui fait que toute cette aventure-là va, oui, donner une certaine confiance puis un certain développement de personnage à Scott, mais va aussi pas nécessairement sortir le meilleur de lui et va faire que, dans le fond, Ramona va se retrouver à être excessivement isolée, va sentir qu'elle est plus libre. Scott va se mettre à avoir des comportements peut-être pas aussi pires que ceux de Gideon, parce qu'ils sont plus sous-entendus, mettons, qu'on les voit, mais va finir par développer justement comme... il va finir par... Il y a comme une routine qui s'installe dans les BD qu'on voit pas dans le film, parce que le film, c'est comme si ça se passait en 2-3 semaines. Alors que dans les BD, c'est comme si ça se passait en... Je pense que ça se passe quasiment pas en un an, mais tu sais, plusieurs mois. Fait que là, on voit s'installer l'espèce de routine, puis le fait que si Scott, au début, idolâtrait le personnage de Ramona, vers la fin, avant qu'elle disparaisse, va énormément, en fait, lui... va juste devenir bête, puis va comme un peu prendre cette relation-là pour acquise, va plus vraiment faire d'efforts, va lui reprocher des affaires, puis elle va être, franchement... Elle va pas se sentir bien, puis elle va dire, ben, je vais m'en aller. Mais... n'ayant nulle part où aller à ce moment-là, de ce qu'on comprend, elle retourne vers son ex. Elle a son rebound, qui est le final boss.
Gideon.
Mais il y aura un affrontement final et le bien va gagner. Et il y a beaucoup plus de queerness dans la BD aussi. J'aimerais le nommer. Il y a plus qu'un personnage queer dans la bande dessinée, alors que dans la série télé, dans le film, il y a une relation sous-entendue. Ben, il n'y a pas une relation sous-entendue, mais on comprend que le personnage de Ramona est bisexuel ou pansexuel et va donc se permettre certaines choses. Puis Kim aussi est fluide là-dedans. Puis, en fait, tout le band, sauf Scott, semble très fluide là, de ce que je comprends. Mais voilà, c'est ça qui se passe.
Yes.
Alors qu'il y a moins de queerness, je trouve, dans le film.
Oui, en effet.
Il n'y a pas le coloc de Scott qui est gay aussi? Puis qui a un
oui, il y a Wallace. Il y a Wallace qui change de date à tout bout de champ. C'est ça le running gag, c'est qu'à chaque fois qu'on voit Wallace, il y a un nouveau chum. Puis même des fois, c'est pas qu'il y a un nouveau, c'est qu'il s'accumule. Parce que là, Scott se réveille dans le lit à Wallace parce qu'il va pas bien. Puis là, ben Wallace se lève. Puis là, le chum à Wallace se lève. Puis là, l'autre chum à Wallace se lève. Fait que tu sais, il y a ce running gag-là que Wallace, date beaucoup, vole des chums aussi. Il vole le chum de la sœur à Scott. aussi, parce qu'il le trouve cute. Mais ouais, il y a ça.
Ben, fait que, on a fait un peu le tour de l'univers de Scott Pilgrim. La table est mise.
Oui.
Maintenant, le film. T'avais plein d'anecdotes.
J'avais plein d'anecdotes. Ben, tu l'as soulevé tantôt, Ellie, que le film est très collé sur le premier et le deuxième tome.
Ouais.
Et le sixième, mais moins sur 3, 4, 5. Puis dans le fond, la raison, c'est que à la base, il était supposé avoir 3 films.
Oh, shoot!
Parce que l'univers, comme tu l'as mentionné, est très large. Il se passe beaucoup de choses. Puis le but de Edgar Wright, c'était pas de couper rien, mais de mettre en cinéma ce que les BD montrent si bien. Et là, ce qui est arrivé, c'est que les producteurs ont fait... Ouais, c'est parce qu'on pense pas que ça va tant pogner que ça.
Oh non!
Fait que condense tes 3 films dans un. Puis c'est pour ça aussi que, en tout cas, comme le dernier tome, il est sorti un mois avant la sortie du film. Fait que mon idée, c'est que Brian Lee O'Malley a dû parler avec Edgar Wright, faire comme voici, comme
comment ça se passe,
puis de quoi ça a l'air, puis tout. Puis c'est pour ça que c'est aussi collé là-dessus, tu sais. Faire le contraire de qu'est-ce que Game of Thrones a fait. Shout out to George R. R. Martin. Mais c'est ça, dans le fond. Il a dû condenser. Puis, à quelque part, les producteurs n'ont pas eu tort parce que quand le film est sorti, ça n'a pas tant pogné. Le box-office n'était pas là. Puis, c'est plus tard que. Je pense que c'est en sortie en vidéo que là, l'engouement a levé, qu'il y a eu le jeu vidéo, qu'il y a eu comme. Mais c'est plein d'affaires.
Parce que tu me dis ça, et de mémoire, je me demande si je l'ai pas vu en premier en DVD. Mais c'était la grande époque des clubs vidéo aussi. Je me demande si je l'ai pas vu en DVD en premier, mais je me rappelle que je l'ai vu après souvent, souvent. Là, on allait chercher la cassette, j'avais un poster chez nous, j'ai capoté sur cette affaire-là.
Mais tu sais, moi, je me souviens, j'étais allée le voir au cinéma, puis comme je le disais, comme ma meilleure amie, on n'avait aucune attente. Fait que de souvenir.
C'est un échec au box.
C'est un échec.
C'est un flop, en fait.
Oui, oui.
Parce que le film a coûté entre 60 et 85 millions, puis il a rapporté seulement 49,3 millions. C'est un échec commercial.
Mais tu sais, comme, il n'y avait pas vraiment de souvenirs, il n'y avait pas vraiment de pub. Puis pour la pub qu'il y avait, ça ne vendait pas à quel point le film était nice.
Uh-huh.
Tu sais, le montage du film est exceptionnel, autant de faire référence au format BD qu'à l'esthétique jeu vidéo qu'on retrouve dans la bande dessinée.
Mm-hmm.
Puis ça, tu sais, comme les bandes-annonces, c'est mostly du storytelling puis du montage, puis ça le rendait pas dans la bande-annonce.
Mm.
Fait que ça m'étonne pas que ça ait été un flop. T'sais, tu peux avoir la meilleure œuvre ever si tu l'advertises pas comme du monde ou tu le fais pas pantoute et que personne la voit. Ben, ça marchera pas, tu sais. Fait que c'est un peu ça qui a pas fonctionné pour Scott Pilgrim, mais... Ça a eu une fandom incroyable. Une fois en DVD, là, comme tu l'as dit, les gens en redemandaient, là, pis c'est incroyable. Puis c'est ça sûrement qui a motivé l'idée d'avoir la série télé. Là, on l'a pas vu. Fait qu'on peut pas trop s'avancer là-dessus. Mon hypothèse, c'est qu'ils ont voulu vraiment faire comme un épisode, une BD à peu près, tu sais, pour pouvoir rendre justice au premier sport. Mais ouais, voilà.
Mais. Je pense que c'est vraiment différent. Parce que là, je me suis posé la question avant qu'on rentre en onde. Puis j'ai commencé à regarder juste des synopsis d'épisodes. Puis il y a des affaires que je suis comme... J'ai jamais entendu parler de ça.
Écoute, ben, tu sais, en même temps, peut-être qu'ils ont voulu aussi... tu sais, on s'entend, la BD puis le film, ça l'a fini en 2010. Ça fait quand même 13 ans. Fait qu'ils ont peut-être essayé de comme recontextualiser l'œuvre.
Mais je pense en fait que je me demande, en fait, je vais aller voir si dans les auteurs de la série, ça a été écrit par Brian Lee O'Malley, là.
Mm-hmm.
Puis avec une autre personne qui s'appelle Ben David Grabinski. Fait que ça doit respecter quand même, puis comme tu disais aussi, tout le cast du film est de retour dans leur rôle respectif. Fait que t'sais, déjà ça, c'est vraiment un tour de force d'avoir été capable d'aller rechercher les mêmes personnes puis qui ont tous...
Tout le monde a voulu. Ben, j'ai vu un bout d'entrevue d'Anna Kendrick, de Aubrey Plaza, qui parlait de Scott Pilgrim. Ben, elle dit, tu sais, on était toutes début vingtaine, puis on a eu tellement de fun, on n'avait pas l'impression
de
d'être
travailler
à job. On avait l'impression que c'était un camp de jour, genre. On était là pour avoir du fun, on était avec nos amis. Le matériel est vraiment le fun. Fait que, moi, je les comprends d'avoir fait comme, hey, ça, c'était une expérience vraiment cool, cette gang-là était le fun. genre, let's go round two. Là, 13 ans plus tard, on fait les retrouvailles, puis on participe à cette œuvre-là pour poursuivre l'univers. Là.
OK. Je crois que ça n'a pas rapport. Je pense que c'est vraiment différent. Là, ouais. Genre, juste à lire le synopsis du premier épisode. Là. Veux-tu que je te dise le synopsis du premier épisode?
Non, je veux pas savoir. Spoil-moi pas.
OK. Mais ça, je crois qu'ils sont allés dans le méta.
OK.
De un. Je pense que c'est très méta. Puis je pense aussi que ils ont décidé de faire comme faisons parler les personnages qu'on n'a pas vus.
Ah, fuck yeah.
Je crois. Mais comme je disais, ouais, j'ai pas eu de détails beaucoup, seulement sur des gens qui sont comme c'est trop pareil ou c'est trop différent. Mais je suis comme ben là, c'est pas des bonnes critiques, là. Tu sais, je veux savoir comme pourquoi c'est pas pareil, pourquoi c'est pas différent. Puis en même temps, moi, si je suis fan, puis que déjà la BD est super bonne, puis que déjà le film respectait, à mon sens, mais le fait que tu expliques que ça a dû être raccourci énormément comme production, ça explique vraiment bien pourquoi est-ce que tout ce que tu as décrit tout à l'heure, qui t'es résumé tout ça, alors que comme je disais, c'est parce que c'est tellement capoté de voir que comme quasiment le deux tiers du film est pareil, puis après c'est comme plus pareil du tout. Mais où est-ce que je m'en allais avec ça? Si je suis une fan de l'univers, surtout si c'est fait par les mêmes créateurs, que c'est le même cast, que c'est comme il y a vraiment un esprit de, c'est vraiment de faire, je vous donne quelque chose de complètement différent, je vous donne une nouvelle œuvre. J'utilise les mêmes personnages, mais je fais quelque chose de complètement nouveau. Là. Il y a quelque chose de quasiment du multiverse là-dedans. Là, t'sais.
Oui, mais ben, tu sais, ça revient un peu à. Tu sais, quand ils ont sorti la dernière trilogie de Star Wars, tu sais, l'épisode 7, les gens étaient comme. OK, mais c'est parce que c'est exactement l'épisode 4. Fait que là, les gens étaient frus parce que c'était exactement pareil. Puis là, l'épisode 8 est sorti. Puis en fait, c'est vraiment trop différent, on n'aime pas ça. Puis comme, moi, c'est parce qu'à un moment donné, mon chum, comme, oui, ça participe à un univers, mais faut que t'acceptes que c'est des œuvres indépendantes qui s'inscrivent dans cet univers-là, tu sais.
Ouais.
Il va toujours avoir du monde fâché. Rendu là, comme, on vous laissera admirer ça. Si vous avez aimé ça, ce serait cool d'avoir des raisons de pourquoi, puis que c'est pas juste parce que, puis
ben voilà. Pas juste parce que c'était séparé ou c'est différent.
Ouais, juste avoir des idées, puis si vous avez pas aimé ça aussi, on aimerait ça savoir pourquoi, tu sais, comme, est-ce que vous aviez des attentes, est-ce que, tu sais, qu'est-ce qui fonctionne pas, fait, ouais.
Parce que de mémoire, au moment où Scott Pilgrim est sorti, c'est sûr que Edgar Wright, c'est bien Edgar Wright. Oui. C'est juste parce que ça mélange, parce que je trouvais que ça sonnait pareil comme autre chose. En tout cas, Edgar Wright, qui est un réalisateur anglais qu'on connaît beaucoup pour tout le travail qu'il a fait avec Simon Pegg, qui est très justement dans un imaginaire. Il a fait plein d'autres films après qui se basaient beaucoup sur une qualité de l'image. Dans le film de genre, c'est vraiment quelqu'un qui fait du beau travail, soit dans la comédie totale, mais tu sais, qui va vraiment faire un... C'est justement, c'est pour moi, c'est comme un des ultimes, mettons, réalisateurs de films de genre, mais qui va couvrir plein de genres, tu sais, et qui a un œil et une qualité incroyable, tu sais. Puis de mémoire, c'était la première fois que je voyais quelque chose d'aussi méta que Scott Pilgrim, beaucoup basé sur l'œuvre de la BD, bien sûr, mais juste d'avoir, mettons, une des scènes, je pense, clés, mettons, de ce que j'essaie d'expliquer, c'est quand t'as Scott qui veut aller se battre contre Gideon, puis qui fait comme I need a life, tu sais, j'ai besoin d'une vie, qui va taper un cœur dans les airs, puis là ça le revigore un peu. Tu sais, il y a quelque chose de très, mais c'est pas adressé, c'est pas, comment je pourrais dire, c'est pas comme mettons, oh, il faut qu'on explique pourquoi est-ce que des éléments de jeux vidéo, c'est pas important. C'est qu'il y a quelque chose de tellement ancré dans le réel, comme je parlais tout à l'heure, apprendre à dealer avec la vie de dating au début de l'âge adulte, puis apprendre à dealer avec une certaine vision de l'époque qui probablement mériterait une relecture 10 ans plus tard, mais pas probablement mérite une relecture 15 presque bientôt 20 ans plus tard que le premier tome est sorti. Alors que t'as toute cette espèce d'effervescence-là autour d'affaires, que quand une ligue d'ex-copains maléfiques, le fait que justement il y a des éléments de jeux vidéo, le fait que les jumeaux ils peuvent sortir des dragons, puis ça...
yo, les robots des jumeaux, c'est ça qui manquait au film. Comme quand on arrive dans BD là, tu sais, mettons, si vous avez commencé avec le film puis après ça vous faites la BD, là vous vous rendez compte de toutes les affaires qui ont pas été intégrées, puis
C'est mais là le qu'on papa dit... des jumeaux, il était super important dans les BD.
Yo, oui. Mais c'est surtout, tu te dis comme, OK, fait que dans le film, ils ont des espèces de dragons qui sortent des notes de musique. C'est très cool. Mais ils ont des robots qui se battent pendant un party puis qui détruisent un appartement d'un BD. Puis t'es genre, OK, mais ça, visuellement, ça aurait été fucking nice au cinéma. Mais tu sais, ils ont dû faire des choix et tout. Mais en effet, c'est juste...
Mais c'est pas adressé, tu sais, c'est même pas... Non. Les gens trouvent pas ça si weird que ça.
Mais c'est parce que c'est assumé. Ouais. Dans les films, quand ils font des affaires un peu qui sortent de l'ordinaire... Ben, c'est parce que aussi, il y a deux affaires. Quand ça sort un peu de l'ordinaire puis que c'est pas assumé, ben là, les gens, ils sont comme, ah, ben là, il va falloir que je l'explique parce que les gens, ils vont trouver ça bizarre, puis je sais pas, puis nanana. Non, si tu y vas full pin, t'es comme, d'accord, c'est ça qui se passe.
C'est ça qui se passe.
Tu sais, mettons, exemple, c'est vraiment vieux, là, mais genre... Cendrillon, là.
Ouais.
C'est un film que tout le long, c'est basé dans le réel. Tu sais, à nulle part, on parle de magie puis de bonne fée. Comme les animaux, ils se parlent entre eux autres, mais comme s'ils parlent en Cendrillon, elle les comprend pas, là. Comme,
mm-hmm.
Ils parlent entre eux, on les comprend pour alléger la tâche aux enfants. Mais quand la bonne fée marraine, elle arrive, puis t'es comme, c'est un Deus Ex Machina, là. Genre, nulle part, tu m'as dit que la magie existait dans cet univers-là. What the fuck?
Mm-hmm.
Mais ils ont juste go with it. Ils ont pas eu à l'expliquer. Puis on s'en fout. Fait que quand t'as des petits éléments comme ça qui font pas full de sens, mais que tu sais que ça fait différent, mettons, de la vie de tous les jours.
Ouais.
Si tu l'assumes, c'est vraiment chill. Puis au-delà de ça, ben c'est parce que Scott Pilgrim, c'est pas un petit peu. C'est à fond. Tu le vois directement, l'esthétique de bande dessinée, tous les petits éléments de jeux vidéo. S'il y en avait juste un, on serait comme, OK, tu sais, c'est un joli clin d'œil à whatever else. Mais il y en a tellement partout. Puis il y en a qui sont tellement comme... Pas subtils, mais genre, sont comme pas mis de l'avant. Tu sais, mettons, quand Scott, il va pisser, il y a une pee bar qui se vide en haut.
Ouais, comme un Sims, quasiment.
Comme un jeu vidéo, whatever. Mais comme, elle est là, tu la vois, mais c'est pas... Tu sais, elle est pas immense dans l'écran. Comme, ouais. Ça se peut que tu t'en rendes pas nécessairement compte qu'elle est là.
Effectivement.
T'sais. Fait que c'est juste... L'esthétique est assumée par le réalisateur, puis c'est ça qui fait que l'œuvre est aussi magique à ce niveau-là.
Mm-hmm. Puis je pense aussi, peut-être que c'est pourquoi le film a autant pogné, c'est que si on se remet à l'époque, là, genre été 2010,
mm-hmm.
c'était comme un peu le début de l'avènement du geekness.
Ouais.
Tu sais ce que je veux dire?
Ouais, ouais.
Il y avait vraiment quelque chose qui se passait à ce moment-là, puis là, genre, les geeks ont raison. Puis genre, on est à l'époque de Big Bang Theory qui commence. Tu sais, il y a quelque chose dans l'air qui fait que comme la culture geek, la culture nerd, peu importe comment on veut l'appeler, qui a démocratisé en fait plein d'affaires, puis qui a fait que comme arrête de rire de la personne parce qu'elle lit des bandes dessinées puis des romans graphiques, puis genre c'est pas bizarre de triper sur les jeux vidéo, c'est pas asocial, tu sais, ça peut venir avec des comportements sociaux, mais comme n'importe quoi dans vie, là, je veux dire, il y a des gens que leur but c'est juste de faire du cash à pu finir dans vie, puis c'est très asocial comme comportement, mais c'est pas nécessairement critiqué, you know. En tout cas, pour rentrer dans un vent sur le compte de capitaliste. Mais c'est ça, puis tu sais, mettons, on peut le voir avec tout ce que Donjons et Dragons a été, à quel point ça a été démocratisé dans les dernières années. Mais je trouve que c'est ce film-là, je pense, parlait à un public qui avait soif de devenir mainstream, puis de devenir, d'oser exister. Puis il y a beaucoup de ça, je trouve, dans Scott. Tu sais, Scott représente un peu cette image-là de l'époque que je me faisais. En fait, je me représentais beaucoup dans ce film-là parce que Scott ressemblait beaucoup à l'image qu'on me faisait des garçons. Aussi que je pouvais côtoyer dans mon groupe. Tu vois ce que je veux dire?
Ouais.
Puis je pense que je voyais pas à quel point ses comportements étaient toxiques parce que j'étais trop habituée de côtoyer ces personnages-là dans mon entourage. Puis je te dis pas que je côtoyais genre 100 Scott Pilgrim autour de moi. Mais il y avait quelque chose dans l'entitlement, il y avait quelque chose dans le côté de prendre... Tu sais, il y a du patriarcat puis de la masculinité toxique à côté, mais du point de vue d'un personnage... C'est que c'est pas du point de vue de Ramona. Là. C'est pas Ramona qui est l'héroïne de l'œuvre. Fait que c'est pas elle qui s'en défend. Mais je me questionne à savoir, mettons, c'est quoi l'angle? Puis là, j'aimerais relire les bandes dessinées encore pour m'assurer de ce que j'avance. Mais je me questionne beaucoup sur ce que Scott... dans le fond, c'est sa quête personnelle à apprendre. Mais c'était quoi son objectif? C'était-tu juste de finir avec la fille? Ou son objectif, c'était de réaliser la complexité... d'une romance, puis que justement, la romance que tu te fais, elle est tellement loin des tropes, puis elle est tellement loin de l'image que tu peux te faire, que t'as appris, parce que tout ce que t'as été élevé par, c'est la culture populaire, tu sais.
Mm-hmm. Ben, tu sais, moi, la lecture que j'en ai, là, c'est vraiment, on commence avec le classique de... Tu sais, on s'entend, là, Scott, au début du film, c'est pas the A-man, là, comme, c'est mm-hmm. pas genre... Tu sais, il est gauche, il est pas particulièrement sûr de lui, en tout cas, bref. Puis, l'idée que Scott a de son objectif de vie, c'est d'être avec Ramona.
Ouais.
C'est de gagner Ramona. Puis nous, en tant que spectateurs, spectatrices, on se dit, bon, ben, le but du film, c'est qu'il soit avec. Puis c'est chill. Puis ce qu'on voit à la fin... Puis Scott est conscient, et il pense ça tout le long. Fait que de là viennent les comportements toxiques de, ah, ben, tu sais, pour l'avoir, tu sais, il voit toutes ses ex qui se battent pour elle. Ben là, comme, il devient un peu possessif. Et comme, ben là, faut que je la défende, faut que je me batte pour elle. Fait il y a tout ça. Puis je veux pas défendre Scott, là, il y a vraiment des comportements problématiques, là. Mais l'idée que j'en ai, c'est ça. Puis à la fin du film, comme à la fin de la BD, ce qu'on se rend compte, et ce que Scott se rend compte, c'est que si tu veux avoir la fille, il faut que tu t'aimes toi-même. Tu sais, on le voit, il est comme... Il a besoin d'une arme, il a l'épée de l'amour. Ben l'épée de l'amour contre Gideon, elle casse. Parce que si tu t'aimes pas... ben c'est difficile d'aimer les autres puis d'être vraiment là pour eux autres. Fait que tu sais, il meurt, puis il revient, puis là quand il revient, je me souviens plus exactement le nom de l'épée là, mais c'est genre self confidence ou self love ou une affaire de même. Puis c'est une fois que t'as vraiment comme tu sais qui t'es, tu sais ce que t'aimes, tu sais ce que tu veux, ben là c'est plus facile d'atteindre tes buts parce que genre t'es en pleine possession puis tu te fais pas des idées sur l'idéal à atteindre. C'est comme bon ben l'idéal à atteindre c'était moi en tant qu'individu. Puis là, je peux aller vers...
De croire en mes capacités de devenir la meilleure version de moi-même. Puis que ça passe peut-être pas nécessairement uniquement dans une relation amoureuse. Ou t'sais. Il y avait beaucoup ça, je trouvais, dans la dynamique de... Tu sais, en tout cas, moi, c'était mon habitude. J'ai arrêté ça, là, mais à l'époque de Scott Pilgrim, c'était vraiment ça. Là. C'était ça, mon pattern amoureux. Là. Mm. C'était genre, moi, je pouvais juste tomber en amour avec des gens que je considérais inaccessibles.
Mais tu sais, Scott, c'est vraiment... C'est que la manière qu'il va avoir Ramona, c'est qu'il est genre, OK, ben moi, je veux être avec cette fille-là. C'est ça son but, je veux être avec elle. Puis là, il se rend compte, c'est quoi le type de personne avec qui Ramona était. Mmh. Puis je pense qu'à quelque part, il s'est dit, ah ben, si moi aussi, je veux être avec elle, faut que je sois comme eux autres. Fait que ça doit être ça qui a été teinté. Puis c'est ça, c'est l'histoire, c'est, ah ben, pour qu'elle soit avec moi, il faut que je m'adapte à elle, puis que je me moule à ce qu'elle veut, puis tout.
Puis on est très proche d'un certain discours masculiniste aussi, tu sais, genre les filles, elles aiment ça, les bad boys, elles aiment les gars contrôlants, puis tout ça. Puis finalement,
elle
s'en va!
Elle s'en va, et comme... Parce que, dans le fond, encore une fois, ça, c'est ma lecture. Pourquoi qu'elle sacque son camp? Dans la BD, c'est pas pour la même raison, mais dans le film, c'est vraiment parce que je pense que elle se rend compte de comment... sa relation avec Scott est en train d'affecter Scott, mais aussi que il est pas exactement comme ses ex, comme il est pas aussi, il est pas encore aussi problématique qu'eux autres. Puis vu qu'il est comme pas sûr de comment atteindre ce niveau de problème là, elle doit se dire OK, lui, je sais pas comment ça va virer, mais Gideon qui est ultra problématique, je sais exactement à quoi m'attendre avec.
Mm-hmm.
Fait qu'elle choisit comme ça, je le sais que je vais souffrir, mais au moins je le sais dans quoi je rentre. Puis en partant, peut-être que ça va peut-être, je sais pas si c'est ça son but, là, mais ça va peut-être sauver Scott de devenir un être absolument exécrable.
Dans la BD de mémoire, c'était vraiment parce que, genre, il y avait moins l'accent sur les ex dans le tome avant que ça soit la bataille finale. Puis c'était vraiment basé sur le fait que leur relation fonctionnait plus.
Ouais.
De mémoire, mais ça c'était vraiment beaucoup, beaucoup basé sur le fait que, comme, pas que ça fonctionnait plus, mais, tu sais, comme, il se chicanait tout le temps, il était comme, puis c'était très dans le, me semble, de mémoire, là, mm-hmm. c'était très dans la routine, tu sais, c'était très dans la vie quotidienne qui était lourde, tu sais, mm-hmm. qui était pas agréable, tu sais, puis c'est ça, puis Ramona va pleurer, va se mettre à pleurer mm-hmm. et va disparaître, elle va juste fade mm-hmm. out.
Mais tu sais, en même temps, là, c'est comme ça doit faire 8 ans, je pense, j'ai pas lu les BD. Mais tu sais, mettons, là, ton début de relation, faut que tu te battes dans des combats épiques contre les ex de ton ou ta partenaire. Puis là, tu fais ça comme 3-4 fois, puis t'es toujours dans l'attente de le prochain combat, puis je sais pas comment ça va finir, puis whatever. Puis une fois que, comme, ces combats-là sont genre finis, puis là, tu retombes à la vie normale, où ce qu'il y a comme pas ce... cette attente-là de toujours être sur le gun, de toujours être... Fait c'est vraiment une autre dynamique. Mais bref, ça n'excuse aucunement les gens qui vont se pogner après, là, mais je veux dire, je peux comprendre que ça fait un changement dans leur relation de « OK, ben on est habitué à ce que ça roule à 100 à l'heure. » Tu sais, mettons, on l'a vu avec la pandémie, les gens qui roulaient à comme « Bon, ben tout le monde a une job, tout le monde a son appartement. » Puis là, ben t'as des couples qui, parce qu'ils veulent pas être seuls chacun dans leur appart pour la bulle famille, ben ils emménagent ensemble. Là, il y en a un des deux qui a plus de job ou tout le monde travaille de la maison. Puis vu que ça a changé toute la dynamique, ben il y a eu pas mal de séparations là dans la pandémie parce que c'est plus la même chose qu'on est habitué de vivre. Puis on n'était peut-être pas nécessairement prêt à ça. Fait qu'il y a peut-être ça qui se reflète dans la BD au niveau de la relation entre Scott et Ramona.
Mais tu vois, en fait, ce qui se serait passé, dans le fond, c'est qu'elle réalise qu'il a jamais laissé Knives ou qu'il a une affaire de même.
Ah oui, il y a ça aussi.
Puis que, dans le fond, elle dit, ben, tu me trompais. Puis elle fait, non, je trompais elle avec toi. Puis elle comme, what the fuck?
Oui, il y a ça. Mais on l'a un peu dans le film aussi, là, genre, what the hell? Là?
Mais c'est ça. Puis que, dans le fond, c'est ça. Puis là, elle se coupe les cheveux, elle se teint les cheveux, puis elle fait, I'm out of here.
Oui. C'est vrai, c'est ça.
Mais tu vois, mais il y a quelque chose que je trouve quand même intéressant du fait que comme et puis ensuite il apprend que, et là ça c'est ça, je me rappelais pas, mais je me rappelais que les twins étaient plus importants, mais tu vois, c'est que les twins ont révélé que dans le fond Ramona était avec les deux en même temps, puis que elle le disait pas, enfin ils savaient pas qu'elle était avec les deux en même temps, puis ça les a fait tourner un contre l'autre, fait que voilà. Mais tu vois, c'est comme intéressant. Je trouve que, dans le fond, bref, c'est une œuvre que, mettons, j'aimerais ça relire, mais je vais essayer de relire avec mes yeux d'il y a 10-15 ans là, pour faire comme... OK, qu'est-ce qu'on essayait de dire à travers tout ça? Parce que je pense quand même que ça parle beaucoup de masculinité toxique. Là. Gideon est un vilain. C'est un vrai vilain.
Oui, c'est le vrai méchant. Ce gars-là est désagréable.
Mais c'est drôle parce que... il est là, puis c'est vraiment, je trouve vraiment l'image de, tu sais, comme mettons, tu sais, quand on dit le bagage là, parce que comment je pourrais dire, on le voit pas dans le film, on le voit juste à la fin là.
C'est un final boss,
mais on en parle tout le long. Tu sais, il est vraiment là, il est comme, c'est le mot que je cherche. Il est omniprésent là, il est envahissant. Son evilness envahit toutes les relations, puis est en train de tout nuire à toute tentative d'avoir une relation qui fonctionne, mais il est pas là. Il est juste... C'est ça. Il est en arrière. Toi, t'étais-tu contente qu'ils reviennent ensemble à la fin?
À l'époque, oui, parce que les happy endings, comme ce qu'on pense, c'est un happy ending. Toujours le fun. Aujourd'hui, avec mes yeux de fille de 32 ans, je serais comme... Je pense que tout le monde a besoin d'aller en thérapie. On va s'en jaser. Je suis peut-être ambiguë. Faudrait que... Comme, là, tu me le poses à brûle pour point. Faudrait que j'y réfléchisse un peu plus longtemps. Je pense que vraiment, comme... Faudrait travailler la relation, là. Comme, il y a beaucoup de choses à ressortir. Mais à la base, Scott était supposé finir avec Knives.
Ah oui, à la fin des BD?
À la fin du film, il était supposé finir avec Knives. Cette fin-là, elle était filmée. Tu sais, Scott, il retourne voir Ramona, puis est comme, écoute, on a essayé, mais vraiment, la meilleure personne pour toi, c'est Knives. Parce qu'au début du film, Knives est super naïve, super dans l'idolation.
Mais elle travaille beaucoup sa confiance en elle.
Elle travaille beaucoup sa confiance en elle. Il y a une passe où ce qu'elle essaye de rendre... De reprendre Scott en imitant Ramona. Comme, elle travaille très fort là-dessus. Fait que, tu sais, je pense que cette fin-là, elle aurait pu faire du sens, mais encore une fois, Scott doit aller en thérapie. Comme, il y a des shit qui se sont passés, qui s'excusent pas full, surtout ce qu'il a fait à Knives, là, comme tu peux pas dater deux personnes sans leur dire. Mais bref, fait
une personne plus jeune qui est clairement dans une dynamique. Tu sais, il y a comme...
Oui, il y a beaucoup de choses qui rentrent dedans.
Parce
comme,
que c'est que, tu sais, comme on le dit, c'est une différence d'âge pas si importante. 5 ans, c'est pas une grosse différence d'âge, mais c'est beaucoup à cette époque-là. Parce que, tu sais, je veux dire, t'as quelqu'un qui rentre dans la vie d'adulte, puis t'as quelqu'un d'autre qui est comme... qui l'a déjà entamé, qui techniquement a probablement passé par déjà le collège, déjà peut-être un peu d'études, qui a déjà travaillé, qui était, tu sais, ça dit au début que dans le fond il y a pas de job là, tu sais, tout ce qu'il fait c'est comme faire de la musique puis se débrouiller puis vivre sa belle vie, mais c'est il se cherche beaucoup puis il se trouve pas, comme clairement il se trouve pas, il y a pas d'objectif là, parce qu'à la fin, tu sais, c'est niaiseux, mais à la fin, mettons qu'on fait le parallèle avec Barbie là,
ouais.
Tu sais, c'est comme à la fin Barbie va dire à Ken, hey, you know what? Pourquoi est-ce que tu vas pas... pourquoi tu vas pas trouver ton purpose?
Mm-hmm.
Là, ben, I'm Kenoff, tu sais, puis genre, whatever. Mais tu sais, comme dans le fond, ma seule job, c'était de t'aimer, puis là, je dois me trouver mon propre purpose. Il y a
c'est la rédemption. Son seul job, c'était de l'aimer. Son autre job, c'était de beach.
Ah oui, c'est vrai.
Il y avait deux purposes, Ken.
It's just beach. Mais c'est ça. Mais tu sais, il y avait quand même cette quête-là de comme vivre à, ne plus vivre à travers les autres. Puis je pense que c'est peut-être ce que Scott mériterait, en fait. Mm-hmm. Parce que quand on dit de s'aimer soi-même, tu sais, c'est bien cute de s'aimer soi-même, mais c'est aussi de se dire, on est des bêtes sociales. On peut pas vivre sans les autres. Mais c'est très difficile de se faire respecter dans une relation quand on a l'impression que cette relation-là est notre pilier dans la vie, ce qui est vrai. Là, je veux dire, moi, je suis mariée depuis presque 10 ans. Là, je veux dire, c'est sûr que demain matin, il s'est passé quelque chose. Ça se peut que j'aie une couple d'affaires à régler, là, mettons, là. Mais comment trouver, si à ce point-là, tu te liquifies dans la relation, que tu n'existes plus sans cette relation-là, que tout ton purpose tourne autour du fait que cette relation-là doit fonctionner, puis que surtout que tu dois plaire, ça, c'est super rushant. Puis je comprends qu'il a voulu changer, tu sais, que puis en même temps qu'il a voulu changer puis qu'il a voulu exiger des changements de Ramona aussi, je pense que dans la BD c'était un petit peu plus flagrant là, que comme il s'attendait quand même à certaines choses, mais je pense que c'est ça, tu sais, ça reste que c'est des jeunes de 24 ans, tu sais, à un moment donné à 24 ans, comme qu'est-ce que tu sais dans la vie.
Ben tu sais, si mettons on refaisait le film aujourd'hui, je pense que la fin à laquelle on s'attendrait, ce serait Scott qui dirait aux filles comme, premièrement je m'excuse, deuxièmement je vais prendre du temps pour moi, puis je vais me refaire, puis comme on s'en reparlera dans une couple d'années. Tu sais.
Ouais.
Je pense que ce serait ça, tu sais, comme ça, c'est la vision 2023-2024. Là,
ouais, exact.
Mais, tu sais, mettons, pour l'époque, je pense que ça aurait plus été naïf de comme prendre le temps de faire comme, gars, je vais travailler sur nous, puis je vais m'excuser. Puis, comme, c'est de reprendre cette relation-là qui a dû bien commencer, là, comme peut-être un peu weird, puis qui a été bouleversé par l'arrivée de Ramona, qui n'est pas la faute de Ramona, qui est la faute de Scott, là. Mais peut-être revoir ça, mettons, en 2010, pas aujourd'hui. Aujourd'hui, pas aujourd'hui, Scott finit tout seul. 2010, ça aurait été nice qu'il peut-être revienne avec Knives.
C'est vrai. C'est vrai.
Yeah.
Mais,
pendant que j'y pense, ça n'a pas rapport, là, mais je veux juste faire un shout-out à l'ami de Knives, qui, de un, s'appelle aussi Tamara, et qui est le personnage qui me ressemble le plus parce qu'elle est juste fed up tout le long. Chaque fois qu'elle...
Alice Scott, hein?
Alice Scott, true friend. Elle est genre, girl, don't do that. Puis tu sais, comme Knives, pendant qu'elle teint ses cheveux, puis qu'on l'entend pas parce qu'elle a la tête dans l'eau, puis t'as juste l'autre fille qui est comme... je t'entends pas, puis qui roule des yeux parce que c'est sûr qu'on t'entend pas, l'eau elle coule full fort puis tu parles comme dans tes cheveux, genre. Bref, j'adore ce personnage là mais j'adore tous les personnages secondaires et même tertiaires là. Il y en a qui sont très très cool,
comme Wallace,
donc comme papa. Wallace, comme je me souviens plus de son nom, mais le personnage d'Aubrey Plaza qui est la barista qui sacre tout le temps puis qui se fait comme... elle se fait modifier son speech quand elle parle parce que justement elle sacre, puis il faut pas sacrer dans le film.
Puis, je me rappelais même pas, mais c'était, voyons, l'ex de Scott est joué aussi par
Brie Larson.
Brie Larson, qui est comme, oh my god. Mais on en a parlé de la musique, mais comment je pourrais dire, l'utilisation intradiégétique de la musique de ce film-là est tellement hot aussi, le fait que c'est un groupe de musique qui fait comme toute la culture des Battle of the Band et tout ça. Il y avait quelque chose aussi de... Tu sais, on parlait tout à l'heure de, tu sais, l'avènement des geeks, mais il y a quelque chose de comme un peu de ce rêve-là, je trouve, de, mettons, tu sais, une génération qui a écouté Degrassi, puis qui est comme... Non, mais tu comprends ce que je veux dire? C'est une génération qui a écouté Degrassi ou qui a écouté, genre, les frères Scott ou ou genre Caitlyn Montana, là, je sais pas trop, mais tu sais que genre le l'avènement de ta vie, c'est que tu vas participer à un genre de concours rock, là. Il y a quelque chose de alors qu'aujourd'hui ce serait probablement pas ça, là, mais
ben tu sais, c'est la version début vingtaine de la finale de School of Rock, okay? Comme, c'est fucking ça. Il manque juste Jack Black pour venir hoster le Battle of the Bands.
Hey, c'était-tu bon, School of Rock?
Oh, man!
Ah, c'est... Ah, je pense que je vais réécouter ça bientôt.
On parlait avant l'émission. Hier, j'écoutais le top 20 des meilleures fausses chansons de films. Il y avait bien entendu Sex Bob-omb, We Are Sex Bob-omb de Scott Pilgrim, mais il y avait aussi la chanson finale de School of Rock qui était dedans.
Qui était vraiment bonne.
Oh, mon Dieu! Mais, ouais, non, c'est juste sublime. Mais tu sais, comme quand t'es... Quand ton équipe musicale, c'est genre Metric qui te fournit une toune, puis genre Beck qui écrit les chansons pour Sex Bob-omb, t'es juste comme...
Oui, puis qui a écrit la chanson Ramona, puis oui. Il y avait aussi... voyons, je vais retrouver le nom de la toune, là, mais cette toune-là, je l'ai écoutée sur repeat sur mon iPod, je sais pas combien de fois, là, mais oh my God, continue à parler pendant
genre
que je...
Genre Garbage Truck?
Non.
Ben, moi, ma préférée, c'est vraiment la chanson qui chante le band contre qui ils sont au premier Battle of the Band, qui est comme « Our next song is called I'm so sad, so very, very sad. »
Oui!
3, 4, so sad. Et la tune dure 3 secondes. C'est exceptionnel. Genre, ce genre de gag-là, en plus, ce band-là, leur drummeuse, elle a comme 9-10 ans, puis elle arrête pas de faire des fuck you à la drummeuse du band à Scott, qui est genre, eux autres aussi ont une fille drummeuse, puis elle est vraiment comme conscious about it. Mais.
Ouais, ben, parce qu'elle était comme un peu comme, ah, oh, je peux pas croire que comme, c'est moi, c'était comme mon brand à moi, là. Mais il y avait la chanson. C'est ça, We Hate You, Please Die.
We Hate You, Please Die.
Qui était la deuxième chanson qu'ils jouaient après.
Oh oui, puis ils sont comme, alors notre prochaine chanson, c'est ça. Puis là, t'as Wallace au balcon qui est comme, woo, I love this song. Puis comme, the song is for the guy who keeps shouting at the balcony. Puis c'est We Hate You, Please Die. Puis il est full content. Genre. Mais oui, mais il y a tellement, OK, il faut que je partage cette tranche de vie-là. Dans vie, j'ai vraiment l'habitude de passer directement au second degré puis oublier le premier degré des choses. Fait qu'en écoutant Scott Pilgrim, quand l'ex-vegan de Ramona se fait arrêter par la police vegan.
Oui!
La troisième chose qu'il mentionne...
Parce qu'il y avait du lait dans...
Oui, il a mangé du gelato. Il a mangé je sais plus quoi. Mais le troisième, c'est du poulet parmesan. Puis littéralement, ma première réflexion, ça a été... Ah, c'est vraiment du parmesan, c'est un produit laitier. Et ma coloc, elle m'a frappée en faisant « Tam, du poulet, c'est de la viande. » Puis j'ai fait « Ah oui, c'est vrai. » Fait que ça, c'était mon...
Mais c'est ça, il y avait des chansons. Ben, il y avait évidemment Black Sheep, là, qui nous a marqué à l'époque. Anthems for a 17-year-old girl. Sais-tu quelle chanson que je parle?
Oui.
Qui était une chanson qui avait, en tout cas, qui sortirait aujourd'hui, je pense, puis qui parlerait beaucoup. Là, je trouve qu'il y a beaucoup mon algorithme là, qui de nouveaux articles qui sonnent comme ça. La super bonne chanson des Rolling Stones, Under My Thumb, que j'ai écoutée répétition. Là, mais je cherche la toune, mais il y a une toune de Prodigy qui était dans le film et qui est même pas sur l'album, je comprends pas. Mais c'était Invaders Must Die ou quelque chose comme ça. Invention, en tout cas, whatever, il y avait cette toune-là. C'est la toune, dans le fond, c'est la toune de la bande-annonce là, du film. Là.
OK.
Celle-là aussi, je l'ai écoutée à répétition. Bref. Ah, tu vois, c'est parce qu'il est sur le score. Ah, il y en a comme 4 albums de cette affaire-là, Dieu!
Il y a vraiment beaucoup de... Ben, tu sais, Scott Pilgrim, c'est un peu comme... ben, un peu moins là, que Nick and the Rosenfinite Playlist, qui est aussi un film avec Michael Cera.
Exactement.
Qui est très axé sur la musique, tu sais. Mais, tu sais, on parlait tantôt du geekness, puis que le... Je m'en dis, Scott Pilgrim a démocratisé la culture geek, c'est pas ça. Mais je veux dire, ça l'a vraiment beaucoup amené dans la culture populaire, mettons. Puis, tu sais, on parle beaucoup de jeux vidéo, puis on parle de bande dessinée, mais tout... Tu sais, comme la musique aussi, puis comme naviguer ton début vingtaine, puis je pense que c'est ça qui a parlé à tout le monde. T'étais l'espèce de moment weird où est-ce que tu sors du secondaire, puis t'es comme, OK, là, je peux vraiment essayer de trouver qui je suis.
Exact.
Puis je suis awkward, puis je vais faire des erreurs, puis je vais me planter, puis je vais faire des affaires qui sont pas nice, mais après ça, je vais travailler sur moi ou je vais me faire call out, puis je vais réaliser que c'est pas nice. Mais c'est ça. Je pense que ça venait juste chercher ce sentiment-là de tes débuts vingtaine, puis tu te cherches.
Ouais, tu cherches, puis t'es comme... Ouais, t'es juste comme... est-ce que je vais devenir un grand héros? Est-ce que t'es un grand héros? C'est quoi ces qualités? Toi qui as fait une maîtrise là-dessus.
Maîtrise sur la figure du héros.
Qu'est-ce qui rend Scott Pilgrim un héros?
Scott Pilgrim, c'est pas un héros, justement.
Ah!
C'est pas un héros. Parce qu'un héros, c'est quelqu'un qui va se battre pour sauver sa communauté. La seule personne que Scott essaye de sauver, c'est lui-même. Il pense qu'il veut sauver Ramona, mais dans le fond, on le voit à la fin avec le self-love, le self-acceptance, whatever. À la fin, c'est lui-même qui sauve de « OK, je veux gagner, je veux m'en sortir. » Puis son but après ça, ben, c'est de battre Gideon, puis rendu là Ramona, c'est comme un peu comme pas le prix qui vient avec, mais bref, c'est pas son objectif final, mettons. Mais tout au long du film, c'est ça, c'est Scott qui essaye de comprendre il est qui, puis d'atteindre ses propres buts, puis qu'il réalise vraiment trop tard que son propre but, dans le fond, c'était de se trouver lui-même, tu sais.
Fait que c'est pas un héros.
C'est pas un héros. Selon, pour les termes techniques, là, les gens qui veulent fouiller, là, Scott serait plutôt une vierge. C'est un autre archétype qui... Les vierges, c'est comme Cendrillon, c'est comme Quasimodo, c'est du monde qui... sont un peu, tu sais, comme, je dirais pas que Scott est rejeté par sa communauté, mais c'est quand même un loser, là. Tu sais, il est pas adoré de tout le monde. T'sais, toutes les personnes qu'il rencontre veulent lui casser la gueule. La fille du café l'haït.
Ben, c'est son propre Ben, là, trouve que c'est celui qui ralentit le groupe, ouais. Là, finalement, là.
Exact. Fait que, bref. Fait que, pour moi, Scott, ben, c'est pas l'archétype du héros. Scott, c'est un protagoniste. C'est une vierge, mais c'est comme un... Si on a l'anti-héros, ben Scott c'est comme une anti-vierge. Comme il veut sauver lui-même, puis il est fucking désagréable tout le long. Ce serait ça pour moi.
Mais c'est ça qu'on est un peu aussi nous autres, hein.
Oui, on est des êtres humains.
On est des êtres humains, puis on n'a pas à devenir. Mais c'est peut-être pour ça qu'on s'attachait à lui, peut-être, oui. Parce que justement il nous reflétait pas un protagoniste qui était un héros. Il faisait juste de son esprit possible avec les clés. De 2004, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Là. Ce qui n'étaient pas les meilleures clés pour être un monsieur, moi, je trouve.
Ouais, non. Tu sais, comme, t'as pas de job, t'es pas aux études. Je me souviens plus c'est quoi la situation avec ses parents. Je sais plus s'ils sont morts ou s'ils sont loin. Bref, comme, le gars, il vit, genre...
Mais ça fait très, je trouve, conte, ou ça fait très, justement, imaginaire, ou comme, ouais. Les adultes sont peu présents, les parents sont peu présents, tu sais.
Yeah. Puis, tu sais, personnellement, pour avoir... été obligée de partager mon lit avec ma coloc pendant 8 mois parce que X, Y, Z. Je le sais que t'es pas au meilleur highlight de ta vie quand t'es rendu là.
Ah, parce qu'il dort avec Wallace.
Parce qu'il dort avec Wallace dans un appart qui paye pas. Comme, c'est ça, comme, il est vraiment pas à la bonne place. Puis c'est ça qui nous parle, tu sais, comme, moi, personnellement, au secondaire, j'étais pas... à la surprise de personne ici. J'étais pas la fille très cool que tout le monde voulait être, tu sais. J'étais dans mon coin, je faisais mes shit, puis comme, whatever. Fait que de sortir, puis de voir un film avec un protagoniste vraiment flawed, qui se cherche, qui est perdu, c'est rafraîchissant de se dire comme, hey, écoute, je vais m'en sortir. J'espère ne pas avoir à me battre avec les ex des gens que je vais dater. Là. J'aimerais juste ça, comme, vivre.
Non, mais moi, j'aimerais juste, comme, battre mes propres démons. Mais ça me serait une quest vraiment, vraiment nice, là.
Il y a un épisode de Bref qui est sur la dépression où est-ce que le gars est dans un jeu vidéo puis qu'il se bat contre ses démons. C'est vraiment très nice. Bref, vous irez voir Bref, cette série qui n'existe plus depuis 15 ans, mais qui est excellente.
Ah! Merci tellement, Tamara, d'avoir été des... Là, tu vas-tu aller écouter? Parce que moi, j'ai même plus Netflix, là. Mais toi, tu vas-tu aller l'écouter, la série?
J'attendais juste que ma coloc soit à la maison, là. Je vais demain.
Ah, parce que c'est ça, vous avez comme vous avez une entente de partage d'écoute...
On se l'est pas dit officiellement. Puis
une
moi, dans
fidélité
vie,
de visionnage.
Ouais. Si tu me connais 2 secondes, tu sais que je suis très traître. Mais écouter des séries, c'est une traîtrise que je ne fais pas. Fait que... Tu sais, on a vécu le film ensemble, on a lu les BD en même temps. Fait que je vais l'attendre pour qu'on regarde la série.
En tout cas, tu nous tiendras au courant si c'était bon. Parce que si c'était pas bon, ben, on perdra pas le temps avec ça. Mais si c'était excellent, ben, crime, peut-être que justement, c'est peut-être. Puis j'espère que c'est bon, pas juste parce que c'est différent ou c'est trop pareil. Mais merci encore d'avoir été avec moi, Tamara, pour
parler
de ça.
Reçu.
Et on se retrouve donc la semaine prochaine pour d'autres Amazoneries. Pas dans la semaine prochaine, dans 2 semaines.
Dans 2 semaines.
Notre dernier épisode de la saison.